Vue du web, comme chaque week-end, c'est l'actualité de la semaine vue par le site The Conversation. Bonjour Thomas Hoffnung.
Bonjour.
Vous êtes le chef des services politiques et société. Et ce matin, c'est plus qu'une brouille. C'est une crise historique qui va nous occuper. Rappelez-vous, c'était le soir du 13 juillet.
Il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire.
Emmanuel Macron, le chef de l'État, ne le nomme pas, mais à ce moment-là, il vise le chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, accusé de s'être offusqué des coupes budgétaires dans une réunion pourtant à huis clos. L'armée en prend pour son grade, 850 millions d'euros d'économies supplémentaires pour cette année. La crise s'est aggravée cette semaine avec la démission du général de Villiers et elle illustre l'impuissance de l'institution militaire à se défendre sur le plan politique. C'est en tout cas, Thomas Hoffnung, l'analyse de Kevin Aleno, doctorant en sciences politiques à l'Université de Rennes, qui publie l'article sur votre site.
Oui, il explique dans son article qu'en quelque sorte, le ministère des armées, c'est sa nouvelle dénomination, est sans défense. Jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron, il y avait l'inamovible ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui avait un poids considérable au sein du gouvernement. On disait par exemple aussi que c'était le ministre de l'Afrique, avec les opérations militaires françaises en Afrique. Il a été exfiltré par Emmanuel Macron, si on peut dire, vers le Quai d'Orsay. Et c'est Florence Parly, la ministre des Armées, qui a pris le relais, qui est assez novice sur ces dossiers. On sait qu'elle connaît bien les questions budgétaires, mais pas forcément les questions de défense. Et là, c'est le chef d'état-major des armées, enfin démissionnaire, le général de Villiers, qui a pris la parole pour à huis clos, vous l'avez dit, mais c'était devant des députés, il y a eu des fuites, pour dire tout le mal qu'il pensait de cette nouvelle coupe budgétaire. Parce que ça fait un certain nombre d'années que les armées subissent des restructurations en pagaille, en série, en chaîne.
Vous avez signalé que le ministère avait changé de nom, ça a beaucoup de sens. Aujourd'hui qu'on le nomme ministère des armées et non plus ministère de la défense.
Oui, c'est comme si en quelque sorte le ministère des armées c'était les questions budgétaires, les questions, j'allais presque dire l'intendance, comme pouvait dire par exemple le général de Gaulle. Et la défense, elle est aux mains de l'Élysée. C'est vrai qu'Emmanuel Macron s'est placé en première ligne délibérément. Il a lancé cette task force antiterroriste à l'Élysée qui est en cours de montage. Il a adressé tous ses signaux aux militaires dès son investiture. Vous rappelez-vous, il était descendu dans ce qu'on appelle un command-car, un véhicule militaire sur les Champs-Élysées. Il avait été voir les blessés de guerre à l'hôpital Percy de Clamart. Puis ensuite, un déplacement à Gao, dans le nord du Mali, auprès des troupes françaises. Donc ça fait beaucoup de signaux.
Ça devait les rassurer, ça, les militaires, normalement.
Oui, je pense qu'il y avait une attente très forte après les années de vaches maigres dont je parlais tout à l'heure. Et justement, je pense que la déception et la colère du général de Villiers, elle est à la mesure de ses attentes et de ses signaux qui avaient été envoyés par le président Macron en direction des militaires.
Quand on parle de crise historique, c'est aussi une faute d'Emmanuel Macron ?
Crise historique, oui, parce que c'est la première fois sous la Ve République qu'un chef d'état-major des armées démissionne. C'est une crise qui risque de laisser des traces parce que les militaires... Il y a beaucoup d'affect. Les armées se sentent un peu mal aimées depuis des années. Bon, on ne va pas remonter à la guerre d'Algérie, mais quand même sous la Ve République, elles ont perdu de leur superbe. Il y a eu la fin de la conscription du service militaire obligatoire. D'ailleurs, Emmanuel Macron... évoqué là, une forme de rétablissement du service militaire pour un mois. On attend beaucoup des armées et les armées trouvent qu'on les sollicite peut-être un peu trop et que les moyens ne suivent pas comme ils devraient.
Est-ce que maintenant les militaires, l'armée peut croire à la promesse d'Emmanuel Macron de maintenir le budget pour les années qui suivent et même de l'augmenter ?
Je pense que il y a une crise de confiance, c'est vrai, on peut pas le nier. C'est ce que dit d'ailleurs l'auteur de l'article sur Conversation. Ça fait des années que les gouvernements successifs disent aux militaires, on vous demande de faire encore des sacrifices, c'est pour mieux rebondir demain. Et donc je pense que là, c'était ce qu'espérait vraiment le chef d'état-major avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, c'était que le budget augmente, mais tout de suite. Or, même si le chef de l'État a dit qu'en 2018, le budget allait augmenter à nouveau, cette année, ça va être une année encore de diminution du budget. Et je crois que les militaires se disent, on nous promet une hausse pour 2018, attendons, c'est pas sûr.
La crise entre l'exécutif et l'armée, c'est aussi un dossier très complet à lire sur notre site franceinter.fr. On change radicalement de sujet à présent, Thomas, pour cet autre article qu'on a repéré cette semaine sur votre site The Conversation.
Achou !
Achou !
Achou !
Tes souhaits ! Je me fais rire !
Mouchou !
Mouchou !
Non !
Achou ! C'est le rhume des foins, les courants d'air, la pollution. Pour bien démarrer la journée, Thomas, on nous conseille souvent de respirer à plein poumon un grand bol d'air frais. Bah, vous nous dites que c'est pas une si bonne idée que ça, qu'il en passe des choses et pas que des bonnes dans notre nez?
Oui, le nez, notre nez présente une particularité, c'est une voie d'accès directe au cerveau. D'où l'expression d'ailleurs rhume de cerveau. Mmh. Alors il y a des protections par rapport à tout ce qui se balade dans l'atmosphère et qui pourrait nous causer des soucis, les germes, des micro-organismes qui sont pas forcément très bons pour nous. Il y a ces petits cils dans nos narines. On produit un certain nombre de substances qui permettent d'annihiler ces microbes qui essayent de pénétrer. Mais malgré tout, notre nez peut être aussi source de fragilité parce que c'est une voie d'accès au cerveau via le nerf olfactif. Et donc, ce que montrent les travaux de recherche actuels, c'est qu'il se pourrait que la pollution, les polluants pénétrant par notre nez, agissent négativement sur notre cerveau. Et peut-être, par exemple, il y a des recherches qui sont menées sur la maladie d'Alzheimer, peut-être que la pollution joue un rôle en la matière.
Et ça, c'est tout de même une surprise. Il y a du mauvais, mais il peut aussi y avoir du bon. Pourquoi pas faire passer des médicaments par le nez? Oui. Apparemment, il y a du neuf dans ce domaine.
Oui, effectivement, ça peut être un avantage d'avoir cette voie d'accès direct au cerveau. Par exemple, aux États-Unis, il y a des vaccins anti-grippe sous forme de spray nasal. Certains chercheurs mènent des travaux, par exemple, sur la maladie de Parkinson. On s'est aperçu, en faisant des recherches sur les souris, des tests sur les souris, qu'on pouvait injecter des cellules souches par voie nasale et que ça produisait des effets très positifs.
Eh bien, merci beaucoup, Thomas Hoffnung. On va le chouchouter, notre nez.
J'ai le nez qui me démange, ça me chatouille, ça me dérange, je passe ma vie à éternuer. Ah, ah, ah,
mais non, ne sortez pas les mouchoirs, vous êtes sur France Inter, il est 7h.